France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein, et on va commencer avec un presque anniversaire et un bilan.
Je vous protégerai face aux menaces. Je combattrai pour vous contre le mensonge, l'immobilisme, l'inefficacité pour améliorer la vie de chacun. Je respecterai chacune et chacun dans ce qu'il pense. Je rassemblerai et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre pays.
Le président de la République, tout juste élu le dimanche 7 mai 2017, il prononçait le deuxième discours de sa soirée au Louvre devant une partie de ses sympathisants. 2 ans de quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous venez d'entendre un extrait donc de ce que disait le président élu. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan, ou quel premier bilan feriez-vous de ces 2 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, Gilles?
Alors si je commence, ce qui était frappant quand on reprend le Macron du début, le Macron de l'élection, le Macron que l'on vient d'entendre, c'était un Macron du mouvement. C'était un Macron de l'équilibre, l'équilibre politique entre la gauche et la droite, un équilibre dans la méthode entre l'horizontal et le vertical. C'est un Macron qui avait créé une forme d'espoir chez une partie des Français, qui y compris avait une certaine fierté du regard qui était porté sur notre pays à l'extérieur, et c'est un Macron qui avait une chance insolente pendant toute la campagne. Et quand on reprend ces différents termes 2 ans après, on voit l'ampleur du changement. Le mouvement s'est peu à peu transformé en un pouvoir qui est de plus en plus bloqué et de plus en plus immobile. L'espoir, de plus en plus, a laissé place à de la déception et à de la colère. L'équilibre initial est devenu un pouvoir vertical et qui s'est déplacé vers la droite. Et comble de malchance, la chance s'est transformée en malchance. Et donc, la France reste un pays dans lequel les choses ne vont pas si mal, y compris quand on compare à nos voisins. Mais la situation du président de la République en 2 ans, c'est quand même profondément sa situation. En tout cas, c'est profondément dégradé.
Natacha.
Le bilan qu'on peut faire, c'est avant tout la question de savoir s'il a tenu cette promesse absolument immense qui était la sienne en 2017, de réconcilier le pays, de rendre aux citoyens une forme de fierté dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils aspirent à faire. Or, on s'aperçoit que, tout simplement, tout cela était extrêmement bien construit, qu'il y avait une forme de sincérité. Simplement, peut-on réellement faire la révolution en étant l'aboutissement de tout un système qui ne fait que s'auto-préserver ? Parce que la réalité du macronisme, c'est surtout le fait qu'il s'agit de faire en sorte que rien ne change. Et pour cela, il faut insuffler du dynamisme, il faut insuffler du volontarisme pour que, à aucun moment, ne soient remises en cause les structures absolues de notre système économique, c'est-à-dire ce libre-échange, cette dérégulation qui se sont mises en place depuis 40 ans. Et pour que tout cela ne soit pas remis en cause, Emmanuel Macron arrive comme celui qui prétend changer. Ça ne pouvait pas marcher, me semble-t-il.
Gilles.
Oui, dans une élection dans laquelle le cœur du sujet était la rupture. Et Emmanuel Macron a réussi à incarner une forme de rupture qui était une rupture politique plus qu'une rupture sur les politiques. C'est-à-dire c'était davantage sur le style, l'exercice, en tout cas l'exercice supposé du pouvoir, que sur le contenu des politiques publiques. Donc c'est un peu ce que dit Natacha. En même temps, Emmanuel Macron on n'est pas en crise parce que Emmanuel Macron a été élu. Emmanuel Macron a été élu parce que nous étions en crise. Il est aussi le processus de ça. Et je crois en tout cas que ce n'est pas une parenthèse et que la vie politique après Emmanuel
Macron. Qu'est-ce qui n'est pas une parenthèse?
L'ampleur des bouleversements, en tout cas sur la vie publique de l'élection d'Emmanuel Macron, on ne reviendra pas, je crois, à ce qu'était le système politique antérieur, et donc c'est un ébranlement qui est un ébranlement profond.
Bien entendu. Simplement, c'est un ébranlement qui peut, en préparer d'autres. Et c'est cela qui est profondément dangereux. Oui, il est la conséquence d'une crise. Ce que je trouve le plus intéressant depuis 2 ans, c'est le fait qu'enfin, on s'est rendu compte que la question démocratique et la question économique et sociale étaient intimement liées. Et que les aspirations des citoyens à plus de pouvoir d'achat, plus de justice fiscale, vont de pair avec leur aspiration à être considérés en tant que citoyens, c'est-à-dire à ce qu'il y ait une possibilité pour eux de faire valoir leur volonté, alors qu'ils ont l'impression depuis des années que, quoi qu'ils votent, les politiques suivies seront les mêmes. Tout cela est entré en ébullition depuis 2 ans, et je pense que ce n'est que le début.
Encore un mot, Gilles.
Oui, juste un mot. Je crois que si on fait la leçon 2 ans après, Emmanuel Macron a gagné avec une force de conviction, en voulant présenter une vision. Maintenant, ce qu'il doit apprendre, et ce qu'on doit réapprendre collectivement, c'est apprendre à compromettre. Compromettre, ce n'est pas se compromettre. Compromettre, c'est faire des compromis. Compromis avec d'autres, compromis avec les partenaires sociaux, compromis avec éventuellement d'autres forces politiques, mais on n'impose pas seul sa vision quand on a un socle aussi étroit.
Que chacun et chacune, donc, y fasse attention.
Oui.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Deuxième sujet à l'ordre du jour, c'est une proposition qui figure dans le projet du Rassemblement National pour les élections européennes. Alors plus de Frexit, plus de sortie de l'euro, mais la suppression de la Commission européenne. C'est ce que porte Jordan Bardella et la liste RN. Suppression de la Commission européenne au profit du Conseil européen, c'est-à-dire des gouvernements. Que pensez-vous de cette idée, Natacha ?
C'est une idée qui existe depuis longtemps dans différents partis politiques ou dans différents courants de réflexion. Simplement, ça ne se suffit pas à soi-même. C'est-à-dire que le Rassemblement national prenne la Commission comme symbole de ce qui ne fonctionne pas en Europe, certes, et c'est en effet un symbole évident dans la mesure où une partie des peuples européens ont compris que quand on a un Jean-Claude Juncker à la tête de cette instance, c'est-à-dire quelqu'un qui a organisé le système d'optimisation fiscale au Luxembourg, c'est une perte de crédibilité absolue. Mais derrière, c'est une réflexion beaucoup plus large qu'il faut avoir sur l'ensemble des institutions. C'est-à-dire que la question est celle du lien entre des instances non élues et les représentants, les gouvernements qui, eux, ont été élus démocratiquement.
Ces
différentes strates de ces empilements font que petit à petit, la démocratie s'éloigne des citoyens. Mais ce n'est pas seulement la Commission, c'est la question de la Cour européenne de justice, de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la question du statut de la BCE. Ce sont toutes les institutions européennes qui ont été conçues d'une façon qui les éloignait totalement du vote des citoyens.
Gilles.
Alors, je suis en désaccord sur ce point avec Natacha Polony, ce qui ne surprendra personne. Je pense, c'est un vieux débat là aussi, mais que l'existence de la Commission européenne est absolument indispensable à l'Union européenne. C'est-à-dire, on ne peut pas concevoir une union qui a en tout cas les pouvoirs qu'elle a aujourd'hui sans avoir une espèce de gouvernement qui assure, qui gère le budget puisqu'il y a un budget européen, qui prépare les textes, qui assure le suivi, qui fait les négociations, etc. Et je suis en désaccord sur un deuxième point, c'est que je pense qu'il n'est pas juste de dire que c'est une institution non élue. Ah. Évidemment, elle n'est
non,
pas.
Non, mais les règles ont évolué.
Évidemment, elle n'est pas élue. Mais est-ce qu'il y a un pays, dans lequel les citoyens élisent leur gouvernement, puisque c'est un exécutif ? Ça n'existe pas. Donc, on fait un très mauvais procès à la Commission. Les membres de la Commission, ils sont désignés par leur gouvernement, qui sont eux-mêmes élus. Ils sont individuellement soumis à une audition extrêmement poussée, que l'on n'a absolument pas dans notre propre pays, devant le Parlement européen. Le président de la Commission européenne, il est lui aussi désigné par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement sur la base du vote des élections au Parlement européen et donc sur la base du vote du 26 mai, et il est investi par le Parlement européen. On n'a pas un système aussi démocratique dans notre pays. Donc,
c'est paradoxal.
Mais évidemment.
Non, c'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas parler de ça en parlant simplement de la commission. C'est un ensemble de structures qui aboutissent à ce que des politiques qui sont des politiques liées à la question de l'ouverture, de la libre circulation, des capitaux, des hommes, c'est tout cela qui se construit petit à petit à travers ces instances. Par exemple, la question du rapport à la concurrence. Vous voyez bien que, certes, les différents commissaires à la concurrence ont été désignés par des gouvernements qui, eux, étaient démocrates. Pratiquement élu, mais à aucun moment il n'y a eu possibilité de débattre réellement à travers, que ce soit pour les citoyens européens ou même à travers les gouvernements de chaque citoyen, pour décider ce qu'on entendait réellement par ce terme concurrence libre et non faussée, qui pourtant était dans ce qui devait être la constitution de l'Europe, à savoir le traité constitutionnel.
Gilles, c'est un paradoxe. Là, en l'espèce, c'est pas la commission qui est en cause, ce sont les textes de l'Union européenne.
Oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est plus large.
Ce n'est pas la question de son existence, ce n'est pas la question de sa légitimité. En revanche, ça c'est le débat public, là pour le coup, qui me paraît totalement légitime, débattre de l'action de la commission. Toutes les commissions ne font pas, depuis le début de l'histoire de l'Union européenne, ne font pas la même politique. Et donc ça, c'est un objet, évidemment, qui est un objet légitime de débat. Avec un point quand même qui est une constante et qui est un problème, c'est que la Commission européenne, de par sa composition, de par sa logique, expulse de plus en plus le politique. Et ça, c'est un problème.